dans la théorie freudienne, objet oral, objet anal, objet phallique, et vous savez que je mets en doute que soit homogène à la série l'objet génital. Tout ce que j'ai déjà amorcé, tant dans mon enseignement passé que plus spécialement dans celui de cette année, vous indique que cet objet, défini dans sa fonction par sa place comme petit a, le reste de la dialectique du sujet à l'autre, que la liste de ces objets doit être complétée. Le petit a, objet fonctionnant comme reste de cette dialectique, il est bien sûr que nous avons à le définir dans le champ du désir, à d'autres niveaux dont j'en ai déjà assez indiqué que pour que vous sentiez, si vous voulez, que grossièrement, ces quelques coupures survenant dans le champ de l'œil et dont est fonction le désir attaché à l'image, autre chose plus loin que nous connaissons déjà et où nous retrouverons ce caractère de certitude fondamentale déjà repéré par la philosophie traditionnelle et articulé par Kant sous la forme de la conscience. C'est là que ce mode d'abord sous l'angle du petit a nous permettra de situer à sa place ce qui jusqu'ici est apparu comme énigmatique sous la forme d'un certain impératif dit catégorique. Le chemin par où nous procédons, qui revivifie toute cette dialectique par l'abord même qui est le nôtre, à savoir le désir, le chemin par où nous procédons cette année, qui est l'angoisse, je l'ai choisi parce qu'il est le seul qui nous permet de faire, d'introduire une nouvelle clarté quant à la fonction de l'objet par rapport au désir. Comment, c'est ce que ma leçon de la dernière fois a voulu présentifier devant vous. Comment tout un champ de l'expérience humaine, une expérience qui se propose comme celle d'une forme, d'une sorte de salut, de l'expérience bouddhiste, a-t-elle pu poser à son principe que le désir est illusion? Qu'est-ce que cela veut dire? Facile de sourire de la rapidité de l'assertion que tout n'est rien. Aussi bien, vous l'ai-je dit, n'est-ce pas, de cela qu'il s'agit dans le bouddhisme. Mais si, pour notre expérience aussi, cette assertion que le désir n'est qu'illusion peut avoir un sens, il s'agit de savoir par où ce sens peut s'introduire, et pour tout dire, où est le leur. Le désir, je vous apprends à le repérer, à le lier à la fonction de la coupure, à le mettre dans un certain rapport avec la fonction du reste. Ce reste est ce qui le soutient et ce qui l'anime. Et c'est ce que nous apprenons à repérer dans la fonction analytique de l'objet partiel. Pourtant, autre chose est le manque auquel est liée la satisfaction. Cette distance du lieu du manque dans son rapport au désir, comme structuré par le fantasme, par la vacillation du sujet, dans son rapport à l'objet partiel, cette non-coïncidence du manque dont il s'agit avec la fonction, désir, si je puis dire, en acte, c'est là ce qui crée l'angoisse. Et l'angoisse seule se trouve visée la vérité de ce manque. C'est pourquoi, à chaque niveau, à chaque étape de la structuration du désir, si nous voulons comprendre ce dont il s'agit dans cette fonction, celle du désir, nous devons repérer ce que j'appellerai le point d'angoisse. Ceci va nous faire revenir en arrière et d'un mouvement commandé par toute notre expérience, puisque tout se passe comme si, étant arrivé avec l'expérience de Freud à buter sur une impasse, impasse que je promets n'être qu'apparente, mais jusqu'ici jamais franchie, celle du complexe de castration, tout se passe comme si cette butée, qu'il reste à expliquer, ce qui peut-être me permettra aujourd'hui de conclure sur quelques affirmations concernant ce que veut dire la butée de Freud sur le complexe de castration. Et pour l'instant, rappelons-en dans la théorie analytique la conséquence. Quelque chose comme un reflux, comme un retour qui ramène la théorie à chercher en dernier ressort le fonctionnement le plus radical de la pulsion au niveau oral. Il est singulier qu'une analyse, qu'un aperçu qui inauguralement a été celui de la fonction nodale dans toute la formation du désir de ce qui est proprement sexuel ait été au cours de son évolution historique de plus en plus amené à chercher l'origine de tous les accidents, de toutes les anomalies, de toutes les béances qui peuvent se produire au niveau de la structuration du désir dans quelque chose dont ce n'est pas tout de dire qu'il est chronologiquement originel, la pulsion orale, dont il faut encore justifier qu'elle soit structurellement originelle, si c'est à elle qu'en fin de compte, nous devons ramener l'origine, l'étiologie de tous les achoppements auxquels nous avons affaire. Aussi bien ai-je déjà abordé ce qui, je crois, doit pour nous rouvrir la question de cette réduction à la pulsion orale en y montrant cette façon dont actuellement elle fonctionne, à savoir comme un mode métaphorique d'aborder ce qui se passe au niveau de l'objet phallique, une métaphore qui permet d'éluder ce qu'il y a d'impasse créé par le fait que n'a jamais été résolu par Freud au dernier terme ce qu'est le fonctionnement du complexe de castration, ce qui le voile en quelque sorte, ce qui permet d'en parler sans rencontrer l'impasse. Mais si la métaphore est juste, nous devons à son niveau même voir l'amorce de ce dont il s'agit. C'est pourquoi elle n'est ici que métaphore, et c'est pourquoi c'est au niveau de cette pulsion orale que déjà une fois, j'ai essayé de reprendre la fonction relative de la coupure, de l'objet, du lieu de la satisfaction et de celui de l'angoisse, pour faire le pas qui nous est maintenant proposé, celui où je vous ai mené la dernière fois, c'est-à-dire le point de jonction entre le petit a fonctionnant comme moins phi, c'est-à-dire le complexe de castration, et ce niveau que nous appellerons visuel ou spatial, selon la face où nous allons l'envisager, qui est à proprement parler celui où nous pouvons au mieux voir ce que veut dire le leurre du désir, pour pouvoir faire fonctionner ce passage, ce qui est notre fin d'aujourd'hui, nous devons un instant nous reporter en arrière, revenir à l'analyse de la pulsion orale pour nous demander, pour bien préciser où est à ce niveau la fonction de la coupure. le nourrisson et le saint. Voilà ce autour de quoi sont venus pour nous se concentrer tous les nuages de la dramaturgie, de l'analyse, l'origine des premières pulsions agressives, de leur réflexion, voire de leur rétorsion, la source des boiteries les plus fondamentales dans le développement libidinal du sujet. Reprenons donc cette thématique qui ne convient pas de l'oublier, est fondée sur un acte originel, essentiel, la subsistance biologique du sujet dans l'ordre des mammifères, celui de la succion. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui fonctionne dans la succion? Apparemment, les lèvres. Les lèvres où nous retrouvons le fonctionnement de ce qui nous est apparu comme essentiel dans la structure de l'hérogénéité, la fonction d'un bord. Que la lèvre se présente sous l'aspect quelque chose qui est en quelque sorte l'image même du bas, de la coupure, c'est là en effet quelque chose qui doit suffisamment nous indiquer après que j'ai essayé pour vous de figurer l'année dernière dans la topologie qui définit le petit A, c'est là quelque chose qui doit nous faire sentir que nous sommes en un terrain assuré. Aussi bien, il est clair, que la lèvre elle-même, incarnation, si l'on peut dire, d'une coupure, que la lèvre singulièrement nous évoque ce qu'il y aura à un tout autre niveau, au niveau de l'articulation signifiante, au niveau des phonèmes les plus fondamentaux, de plus liés à la coupure, les éléments consonantiques du phonème, suspension d'une coupure, étant, pour leur stock le plus basal, essentiellement modulés au niveau des lèvres. Je reviendrai peut-être, si nous avons le temps, sur ce que j'ai plusieurs fois déjà indiqué de la question des mots fondamentaux, et de leur spécificité apparente, du mama et du papa, ce sont des articulations, en tout cas, labiales. Même si quelque chose peut mettre en doute leur répartition apparemment spécifique, apparemment générale, sinon universelle. Que la lèvre, d'autre part, le lieu où symboliquement peut être repris sous forme de rituel la fonction de la coupure, que la lèvre soit quelque chose qui puisse être au niveau des rites d'initiation percés, étalés, triturés de mille façons, c'est là aussi ce qui nous donne le repère que nous sommes bien en un champ vif et dès longtemps dans les praxis humaines reconnues. Est-ce là tout? Il y a derrière la lèvre, ce qu'Homer appelle l'enclos des dents, et la morsure. C'est là autour que nous faisons jouer dans la façon dont nous en agissons avec la dialectique de la pulsion orale, sa thématique agressive, l'isolation fantasmatique de l'extrémité du sein, du mamelon, cette virtuelle morsure impliquée par l'existence d'une dentition dite lactéale, voilà ce autour de quoi nous avons fait tourner la possibilité du fantasme de l'extrémité du sein comme isolé, quelque chose qui déjà se présente comme un objet non seulement partiel mais sectionné. C'est par là que s'introduit dans les premiers fantasmes qui nous permettent de concevoir la fonction du morcellement comme inaugurante, c'est là ce dont nous nous sommes à la vérité jusqu'ici contentes. Est-ce à dire que nous puissions maintenir cette position? Vous le savez, parce que déjà, dans un séminaire, qui est, si je me souviens bien, celui que j'ai fait le 6 mars, j'ai accentué comment toute la dialectique dite du sevrage, de la séparation, devait être reprise en fonction même de ce qui, dans notre expérience, nous a permis de l'élargir, nous est apparu comme ces résonances, ces retentissements naturels, à savoir le sevrage, la séparation primordiale, celle de la naissance, et celle de la naissance. Si nous y regardons de près, si nous y mettons un peu plus de physiologie, eh bien là, faites pour nous éclairer. La coupure, vous ai-je dit, est ailleurs que là où nous la mettons. Elle n'est pas conditionnée par l'agression sur le corps maternel. La coupure, comme nous l'enseigne, si nous tenons, et c'est à juste titre que nous avons reconnu dans notre expérience, qu'il y a analogie entre le sevrage oral et le sevrage de la naissance, la coupure est intérieure à l'unité individuelle primordiale telle qu'elle se présente au niveau de la naissance, où la coupure se fait entre ce qui va devenir l'individu jeté dans le monde extérieur et ses enveloppes qui sont parties de lui-même, qui sont en tant qu'élément de l'œuf homogène à ce qui s'est produit dans le développement ovulaire et qui sont prolongement direct de son ectoderme comme de son endoderme, qui sont partie de lui-même, la séparation se fait à l'intérieur d'une unité qui est celle de l'œuf. Or, l'accent qu'ici j'entends mettre tient à la spécificité dans la structure organismique de l'organisation dite mammifère. Ce qui, pour la presque totalité des mammifères, spécifie le développement de l'œuf. C'est l'existence du placenta, et même d'un placenta tout à fait spécial, celui qu'on appelle chorioallantoïdien, celui par lequel, sous toute une face de son développement, l'œuf, dans sa position intra-utérine, se présente dans une relation semi-parasitaire à l'organisme de la mère. Quelque chose dans l'étude de l'ensemble de cette organisation mammifère, quelque chose est pour nous suggestif, indicatif, à un certain niveau de l'apparition de cette structure organismique, nommément celui de deux ordres, si l'on peut dire, qui sont ce qu'on appelle les plus primitifs dans l'ensemble des mammifères, celui nommément des monotrèmes et des marsupiaux. Nous avons la notion chez les marsupiaux de l'existence d'un autre type de placenta, qui n'est point chorioallantoïdien, mais chorio-vitella. Nous ne nous arrêterons pas à cette nuance. Mais chez les monotrèmes, donc je pense que depuis l'enfance, vous avez au moins l'image sous la forme de ces animaux qui, dans le petit Larousse, fourmillent en troupe comme se pressant à la porte d'une nouvelle arche de Noé, c'est-à-dire qu'il y en a deux, quelquefois, voire seulement un par espèce. Vous avez l'image de l'ornithorynque et aussi bien l'image de ce qu'on appelle le type échidné. Ce sont des mammifères. Ce sont des mammifères chez lesquels l'œuf, quoique nidant dans un utérus, n'a aucun rapport placentaire avec l'organisme maternel. La mame existe pourtant déjà. La mame, dans son rapport essentiel, comme définissant la relation du rejeton à la mère, la mame existe déjà au niveau du monotrème, de l'ornithorynque, et fait mieux voir à ce niveau quelle est sa fonction originelle. Pour tout de suite éclairer ce que j'entends dire ici, je dirais que la mame se présente comme quelque chose d'intermédiaire et que c'est entre la mame et l'organisme maternel qu'il nous faut concevoir que réside la coupure avant même que le placenta nous manifeste. Que le rapport nourricier à un certain niveau de l'organisme vivant prolonge au-delà de la fonction de l'œuf qui, chargé de tout le bagage qui permet son développement, fera se rejoindre l'enfant à ses géniteurs que dans l'expérience commune d'une recherche de nourriture, nous avons cette fonction de relation que j'ai appelée parasitaire, cette fonction ambiguë où intervient cet organe embocepteur, le rapport de l'enfant, autrement dit à la mame, est homologique. Et ce qui nous permet de le dire, c'est qu'il est plus primitif que l'apparition du placenta, est homologique à ce quelque chose qui fait qu'il y a d'un côté l'enfant et la mame, et que la mame est en quelque